pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est la dernière de notre série, l'ultime épisode, la fin d'un petit monde qui se referme aujourd'hui dans les pieds sur terre. Nous avons passé 25 semaines, depuis le 2 novembre 2016 jusqu'à ce 26 juin, sur cette place de la République à observer ses institutions. Nous avons essayé, assez méthodiquement, de savoir si la devise de notre pays était honorée comme il se doit, si nous étions vraiment libres, égaux et fraternels. Cette année électorale était le moment de se poser la question. Car même si personne ne nous a demandé de crier « Vive la France !», il est vrai que nous y croyons un peu à cette trinité. Or, on a bien vu, en un an, que ce n'était pas encore ça. Au tribunal de Marseille, on a vu s'exercer une justice parfois injuste, voire inhumaine. Et puis c'était fini, on s'est fait gentiment remercier et on a dû plier bagages. À la cave d'Amiens, ensuite, il s'en est fallu de peu pour qu'on se fasse virer aussi, quand on a diffusé quelques ratés, quelques dysfonctionnements de l'administration. À l'hôpital de Die, on a vu aussi comment se diluait doucement et se décomposait gentiment un service public pourtant bien utile, une maternité, dont le sort, on le verra, n'est pas encore réglé, mais pratiquement plié. Au lycée Fourier d'Auxerre, on a rencontré parfois des élèves en difficulté et des profs qui ne le voyaient pas, ou le contraire. Mais évidemment, au cours de ces 25 épisodes, on a surtout vu des femmes et des hommes qui se battaient pour rendre une justice juste, donner un enseignement de qualité et soigner avec le plus grand soin, dans un esprit d'équité, de manière fraternelle et en toute liberté. Des fonctionnaires, des employés de l'État, des agents qui se battent chaque jour pour que soit appliquée cette devise, qui font de leur mieux et encore plus, et qui continueront, comme dit Danielle Obono, la députée à qui on a demandé de crier « Vive la France !», à rester, je cite, « la tête dure, le cœur tendre, les poings levés, les bras ouverts, convaincus et déterminés ». Avant l'été, on écoute donc l'épilogue de cette série et on se demande au passage à quoi on a servi, nous aussi, ce que la radio, qui est un service public, a fait dans la vie de ceux que nous avons rencontrés. Un récit de Pauline Mocor, Olivier Minot et Rémi Douate.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Lycée Fourier, bonjour.
Salut Annie.
Salut Pauline.
Donc les courses sont terminées, donc les terminales et les premières ont arrêté leurs cours vendredi. Quant aux secondes, eux ils ont terminé les cours aujourd'hui.
Et toi alors, quel bilan tu fais de cette année scolaire, cette année électorale?
Alors sur cette année scolaire, bah, ma foi, ça a quand même été une année pour moi extrêmement particulière, puisqu'en fait j'ai fait deux années en une. Puisque au mois de février, au moment où normalement tout roule, c'est-à-dire où ça y est, les classes sont lancées, tous les rituels sont mis en place, chacun sait, les élèves savent comment je travaille, moi je sais comment travaillent les élèves, donc il n'y a pas de problème. Mais sauf que là, j'ai laissé deux classes pour en prendre trois. J'ai laissé une seconde et une première pour prendre trois terminales. Puisque Annie Fureldo, ma collègue, est décédée. Donc du coup, là, ça a vraiment été très, très particulier pour moi parce que déjà, il a fallu que je mémorise un nouvel emploi du temps. Et puis, si j'ai été bien accueillie dans une classe, voire deux, et encore, ça se discute, il y a une classe où j'ai été vraiment très, très mal accueillie. Donc c'était pas facile non plus puisqu'en fait, il fallait remettre en place l'autorité. Par exemple, j'ai eu une classe où j'ai eu au moins deux élèves qui étaient extrêmement provocatrices. Donc, comme moi, j'étais pas à l'aise de me retrouver avec un affrontement. Enfin, mais c'est vrai qu'il y a quand même des incivilités dans les couloirs. Il y a des caméras qui ont été installées. Alors, ça faisait plusieurs années qu'on le demandait et puis ça ne se faisait pas pour de multiples raisons. Alors, ça permet, par exemple, quand on a des déclenchements intempestifs d'incendie, quand on a des élèves qui vident les extincteurs, enfin bon, ça va permettre un petit peu de mettre les choses au point et de visionner, de voir qui a fait, et donc à partir de là, de sanctionner. Et puis là, franchement, je pense qu'on arrive à un tel degré de ras-le-bol par rapport au fait qu'on ne peut pas travailler correctement, que certains de nos élèves se sentent en insécurité, que là, pour le coup, j'ai vraiment le sentiment qu'il n'y a pas eu d'opposition.
Ça a changé des choses pour toi, cette série Place de la République ?
Oui, c'était rigolo. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont repris contact avec moi, des anciennes stagiaires, des anciens élèves. En revanche, comme j'ai quand même des collègues qui ont très, très, très mal réagi à certaines émissions, à la diffusion de certaines émissions. Oui. C'est-à-dire que c'était pas normal que les élèves puissent dire des choses pareilles, c'était pas normal que l'on puisse diffuser des choses pareilles. Enfin, j'en ai plusieurs qui sont venus me voir en me disant « Alors, tu te rends compte ?» Je dis « Bah oui, mais bon, c'est la réalité de la vie, quoi. » Bon, c'est le problème de l'hypermaîtrise. Beaucoup d'enseignants veulent être dans l'hypermaîtrise, mais c'est pas possible. Enfin, l'hypermaîtrise, ça veut dire quoi? On peut pas tout maîtriser. Et puis, déjà que nos enfants sont pas nos enfants, donc nos élèves ne sont pas nos élèves.
C'est-à-dire
que c'est pas notre propriété. Ils sont pas formatés comme on voudrait qu'ils soient formatés. Enfin, on peut les accompagner le mieux possible vers une échéance qu'est l'examen. Éventuellement, les accompagner le mieux possible pour essayer de leur donner des armes pour qu'après l'examen, ils puissent passer le cap et réussir. Mais c'est tout. Enfin, faut relativiser notre rôle aussi. Il y a certains enseignants qui imaginent les élèves. Et ce qu'ils imaginent, c'est pas la vraie vie, quoi. Les profs, c'est un milieu quand même extrêmement fermé, qui ne s'ouvre pas sur l'extérieur. Alors en plus, quand on a des couples de profs, ils n'ont aucune idée de ce qu'est la vie extérieure. Donc c'est du style « Ah bon, ton mari est au chômage depuis 6 mois ? Ah bon, il a toujours pas retrouvé de travail ? Mais qu'est-ce qu'il fout ?» Ouais, enfin bon, ça se fait pas comme ça, hein, trouver du travail. Voilà. Donc à partir de là, ça crée beaucoup d'insatisfaction et beaucoup de frustration. Et ça peut créer aussi beaucoup de... d'intolérance de la part de l'enseignant parce que l'élève idéal, ça n'existe pas. Chaque enfant, chaque élève a sa personnalité, sa façon d'évoluer, enfin voilà quoi. Ce qui m'a fait énormément, enfin la séquence qui m'a fait le plus mal, c'est Alexandre. Parce que Alexandre, je l'ai eu sur 2 ateliers d'accompagnement personnalisé. Et j'avais bien vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas bien, mais en plus, moi, là, je suis vraiment... C'est juste 1 heure par semaine, c'est juste sur quelques semaines, donc je ne fais que passer. Donc j'avais bien senti qu'Alexandre n'était pas bien, mais en même temps, je ne voyais pas... Je n'avais pas pris la mesure du passé lourd qu'il avait en lui, quoi. Et c'est vrai que... Parce que vraiment, en cours, il était extrêmement poli, il était prêt à faire tout, il était très, très volontaire. Bon, il fallait beaucoup lui expliquer les choses, mais voilà, il était complètement investi. Donc voilà, c'est ça qui m'a le plus... C'est Alexandre qui m'a fait le plus de peine.
Allô, Laurette ?
Allô, Pauline ?
Ça va ?
Bien, et toi ?
Ça va. Là, je suis au lycée Fourier, mais toi, t'es où ?
Je suis chez moi, je suis rentrée parce que ça y est, je suis en vacances, j'ai fini mon année de seconde. Que je suis là pour aider ma sœur qui va passer le bac demain. Après, je suis contente aussi d'être là pour pouvoir aider mes parents qui sont à l'hôpital parce que ils ont, avec leur maladie, les voir souffrir, c'est horrible pour nous. Donc, je fais la petite maman à la maison, donc je suis là pour faire le repassage, le ménage, préparer à manger, etc.
Et pourquoi tu nous en as pas parlé avant?
Parce que je sais que même moi à l'intérieur ça me bouffe, quoi, parce que je sais que là même au bout du fil j'ai envie de pleurer tellement que c'est dur à supporter, et c'est pour ça que j'ai pas voulu en dévoiler plus.
Et tu t'es écoutée à la radio?
Oui, je me suis écoutée et ça, parce que c'était la première fois que j'avais ça, donc ça aussi, ça a été un changement pour moi, parce que je ne connaissais pas du tout. Je ne pensais pas, en arrivant à Auxerre, avoir une journaliste qui me suivait pour avoir des épisodes sur ce que je faisais tout au long de l'année. Ça j'ai beaucoup aimé. Donc,
pourquoi ça t'a apporté, ça t'a renforcé, en fait, de t'entendre à la radio?
Oui, pour moi, c'est une revanche, parce que je trouvais que... j'étais contente de voir que malgré le harcèlement que j'ai subi l'année dernière en 3e, je pouvais m'en sortir et que les personnes qui sont concernées de ce harcèlement, j'espère qu'ils m'entendent parler à la radio et ils se disent elle a réussi, c'est une revanche.
Ok, Laurette, merci beaucoup.
En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette année parce que franchement, tu as souvent été là pour quand même pour m'aider. Donc, franchement, je te remercie pour tout.
Eh ben, merci à toi. C'était avec plaisir.
Merci. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
France Culture, les pieds sur terre.
Hôpital de Dieu, bonjour.
Si on doit faire le bilan de l'année, c'était une bonne fin de la saison en tout cas, c'était une bonne année.
Il s'est passé plein de choses. Si on repartait à octobre depuis que vous êtes venu pour la première fois, et là on arrive au mois de juin, l'hôpital, le fonctionnement c'est toujours l'incertitude. On a eu les deux médecins avec lesquels je travaillais au mois d'octobre, les deux sont partis. On ne travaille plus qu'avec des médecins donc intérimaires. Le service est réduit de moitié. C'est pénible pour les patients qu'on a régulièrement, tous ceux qui sont en chimio, tous ceux qui ont fait des saignées, tous les patients qui reviennent pour des transfusions régulièrement, toutes les maladies chroniques, ils n'ont jamais le même médecin. Par contre, pour moi, il y a des points qui sont très positifs. C'est le fait qu'on soit dans une petite unité, je trouve qu'on a beaucoup plus de temps à consacrer aux patients. Et ça, on retrouve une qualité de soins que pourraient nous envier beaucoup d'hôpitaux, je pense. On a de la chance. Et j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte à quel point on a de la chance de travailler comme ça en petite unité. Je suis passée à temps plein. Ça a quand même changé beaucoup de choses. Et puis voilà, donc du coup, ça change un peu les choses à la maison. Il y a une réorganisation à faire. Un peu plus d'investissement de la part du conjoint. Puis il y a des choses que je faisais, que je ne fais plus. Et puis voilà, je fais beaucoup moins de ménage, beaucoup moins de cuisine. Voilà, entre autres.
Et la maison est toujours aussi propre ou pas?
Oh, ça dépend des jours. C'est pas grave, c'est du matériel. Mais les choses se mettent tout doucement en place et sans problème.
Et pourquoi vous êtes repassé à plein temps?
Pour une histoire de retraite. Parce que il faut absolument que je travaille à temps plein pour pouvoir avoir une retraite un peu plus élevée. J'ai pas assez fait de temps plein. Donc voilà, c'est que pour une histoire d'argent.
Il est né quand?
Le samedi. Mmh. Deux jours.
Et comment il s'appelle?
Sauve. C'était long, mais ça s'est bien passé. J'étais très bien accompagnée. Je voulais accoucher de manière physiologique, sans assistance particulière. Mais j'avais quand même envie d'être... Enfin, pas forcément de le faire à la maison, et d'être accompagnée les jours qui suivent par une équipe, tout ça. Et j'ai souhaité venir à Die parce que je savais que ça fermait. Parce que si on va tout à Montélimar ou à Valence, on ne va jamais la faire tourner, cette maternité. Donc, c'était militant et c'était parce qu'on m'en a dit que du bien et que du coup, j'avais envie de venir, quoi. Je comprends pas qu'on veuille fermer. Enfin, renvoyer des mamans vers Gap, vers Valence, faire 50 minutes, voire une heure de trajet, je trouve ça dangereux pour la maman et pour l'enfant, évidemment. Et pas du tout confortable, en fait. Enfin, hyper stressant, finalement, de se dire qu'on a autant de trajets à faire. Enfin, moi, depuis Cray, j'avais 40 minutes. Et d'un coup, mes contractions sont vachement accélérées sur le trajet en 40 minutes. Donc, je me dis que quand il y a une heure, ça peut venir aussi. On compte sur 10.
Vous pouvez me dire un petit peu où on en est avec cette histoire de maternité de Die, Avec cette autorisation qui doit se terminer cette année 2017, ce chef de service historique qui est parti à la retraite, quelles sont les nouvelles ?
Aucune. On ne sait rien de plus. On attend de voir. C'est insécurisant, ouais. Pour nous, enfin en tant que professionnels, c'est-à-dire on n'a plus... Oui, c'est ça, je veux dire, on n'a plus de structure solide, quoi, en fait. Donc oui, c'est voulu que ça ferme, de toute façon, ça, on ne va pas se le cacher. Ils le veulent depuis des décennies, on va dire.
Je pense qu'on est une toute petite maternité qui, économiquement, n'est peut-être pas rentable, c'est sûr. Après, au niveau social, je pense que c'est important d'avoir une structure de santé pour accompagner les familles tout au long de la grossesse, de la naissance. C'est aux politiques d'organiser ça et de voir effectivement comment organiser la proximité. La proximité, normalement, c'est l'efficacité. Après, vivre au jour le jour, ça se fait toujours, bien sûr. Mais on a besoin d'autres choses.
Si c'est une fermeture et que derrière, il n'y a rien qui se met en place, enfin, qu'il n'y a pas quelque chose de bien derrière, oui, ça va me rendre triste, parce que là, c'est même plus que triste, c'est même un peu de colère, quoi, je dirais. Moi, je vis à Die, on vit à Die, et on a aussi envie d'un hôpital qui fonctionne, quoi. Je veux dire, on a des enfants, donc on a envie que tout continue, quoi, en fait, hein, aussi. Hein, voilà, parce qu'on y vit et qu'on a besoin, comme tout le monde, eh ben, d'avoir un hôpital qui fonctionne. Donc, il y a la maternité, certes, mais ça englobe tout, hein, je veux dire, hein, voilà.
On saura quand ?
La réponse ?
Novembre.
En novembre 2017.
On espère rapidement. Maintenant, on a tellement tout vu. Et on se fait plus peur sur la comète à ce niveau-là, parce que on s'attend à tout.
Et les premières cigales. A dit, je m'en vais après avoir passé une partie de l'année ici. Je sors du bureau de la directrice de l'hôpital qui attend un heureux événement. Mais cet heureux événement n'aura pas lieu à la maternité de Die. Elle n'a pas voulu répondre à l'interview, mais elle a dit que si elle accouchait pas ici, c'est parce que c'était trop dangereux. On imagine bien que la hiérarchie hospitalière ne va pas défendre sa maternité ici.
Bonjour et bienvenue à la caisse d'allocation familiale.
Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc nous allons vous présenter cet après-midi des informations utiles sur le suivi de votre grossesse pour préparer au mieux l'arrivée de votre enfant. Donc au niveau de la CAF, ce qui va se passer, c'est une fois qu'on vous aura attribué ce numéro d'allocataire, on va vous réclamer différents documents pour calculer vos droits. Donc on vous demandera de remplir une déclaration de situation, une pièce d'identité pour chacun des membres de votre foyer et un relevé d'identité bancaire. Puisque une fois que vos droits seront calculés, si vous pouvez prétendre aux prestations, nous verserons ces dernières sur votre compte.
Vu les temps qui courent, on n'aura pas grand-chose de toute façon. Et on sait que les classes moyennes, c'est celles qui ont bien souvent rien. Quand on fait le calcul, quand je vois que j'avais le droit à une aide de la région par rapport à la garde des enfants, et à 50 euros près, ça passe pas. Donc 50 euros, enfin bon, c'est tout, c'est la vie, c'est comme ça.
Vous êtes un peu trop riche de 50 euros.
Ouais, voilà.
Combien vous gagnez par mois ?
Je dois être à 2000 euros par mois.
Et votre compagnon ?
À peu près pareil. On n'est pas malheureux.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis logisticienne, dans un hôpital. Mais bon, quand on voit qu'il y en a certains... il faudrait pas travailler pour toucher plein de choses. Voilà. Ceux qui travaillent, qui se débrouillent pour avoir une vie correcte, eh ben ils rament. Ceux-là, ils rament.
Vous avez voté ?
Le premier tour, oui. Deuxième, non.
Vous avez voté pour le premier tour ?
Ah, je vais pas vous le dire.
Pourquoi ?
Bah parce que on avait le choix entre... Bon, les noms, je sais pas, j'ai pas regardé, c'était En Marche et puis Front National. On a dit, c'est bien, et on n'ira pas voter, et puis c'est très bien. Comme ça nous fera gagner du temps pour bricoler, faire ce qu'on a à faire. De toute façon, les classes moyennes, c'est soit les très riches, soit les très pauvres. Les classes moyennes, eux, ils payent. Allez-y, payez tout. Moi, j'aime pas vivre au crochet de quelqu'un, que ce soit de quelqu'un ou de la société. Donc, on est indépendant de ça. Mais c'est vrai que quand on voit que certains se donnent même pas la peine de travailler, et ils ont droit à tout, ils auront, au final, quasiment comme nous, quoi.
Vous connaissez des gens qui travaillent pas et qui ont comme vous ?
J'entends beaucoup de choses. Ah bah lui, il travaille pas. Et puis, on le voit passer avec une voiture, en Mercedes, en BMW. Bah, désolé, moi, excusez-moi, j'ai qu'une petite voiture.
C'est pas la CAF qui lui paye sa BMW.
Non, mais mis les aides bout à bout, quand on paye pas la CMU, quand on a CMU, qu'on paye pas sa mutuelle, quand on paye pas les frais de nounou, mis tout bout à bout... Je pense qu'on s'en sort peut-être pas largement, mais on s'en sort bien. Il y en a beaucoup comme ça, on l'entend. C'est pas normal.
La préparation à naissance en piscine. Bon, on n'est pas sur un cours d'aquagym. Hein. Mais voilà, on va quand même travailler en tout cas les muscles qui nous semblent importants par rapport à l'accouchement et bien vous expliquer les choses. Et puis surtout, l'intérêt aussi hein, quand vous êtes dans l'eau. Alors là, peut-être en début de grossesse, c'est pas trop, ça vous gêne pas trop, mais plus on avance dans la grossesse, plus le poids du bébé est important et le fait d'aller dans l'eau, je vous promets, on a l'impression de... tout va bien quoi. C'est quand on ressort de l'eau, on se dit « Ah oui !» Et puis effectivement, on termine toujours notre séance qui dure à peu près 40 à 45 minutes par de la relaxation. On vous accroche en fait, vous accrochez les unes aux autres, vous avez une frite au niveau de la nuque, une autre au niveau des genoux. Et en fait, vous êtes sur le dos et vous accrochez les genoux de la personne devant vous, ça fait une énorme chenille. Fermez les yeux et puis on vous balade comme ça pendant 5 à 10 minutes dans le petit bassin du Nautilus. Fort agréable, même pour nous.
Alors moi je suis auxiliaire de vie et pour l'instant je ne travaille plus à la recherche de nouveaux travail. Et mais il faut savoir que bon, c'est un travail qui n'est pas très reconnu.
Qu'est-ce que vous touchez de la caisse d'allocation familiale vous aujourd'hui ?
Alors moi je touche l'APL en fait, ce qu'on appelle l'APL et le RSA. Et j'ai aussi l'allocation de soutien familial.
Donc, vous vivez essentiellement grâce aux subsides de la caisse d'allocation familiale ?
Oui, essentiellement.
Alors, toutes ces prestations mises ensemble que vous percevez chaque mois, ça vous fait combien ?
Alors, pour l'instant, là, j'ai eu 700 euros en tout ces derniers mois, voilà, en cumulant les indemnités chômage et le RSA, enfin les allocations familiales, en gros. J'essaie au maximum de faire... De me faire un budget, mais c'est très difficile parce que souvent je me retrouve dans le rouge en fait. Parce que bon, un enfant demande beaucoup. Moi j'estime qu'un enfant demande beaucoup. Il y a la cantine, la garderie, le centre de loisirs. En fait, à partir du moment où on se retrouve dans le rouge, mais c'est une spirale infernale. Ça, c'est une continuité, c'est des problèmes, c'est des factures qui s'accumulent et. En se retrouvant devant les assistantes sociales ou autres, on a toujours la même réponse. Il n'y a pas d'argent et voilà. On fait avec les moyens du bord. Donc je fais avec. Moi je pars du principe où mon loyer est payé, mes factures et que ma fille a de quoi manger. Le reste, je fais comme je peux. Voilà.
Et vous concrètement, vous avez de quoi manger ?
On trouve toujours de toutes les façons.
Vous retenez une chose, c'est que votre bébé, il n'aura jamais de carence parce que lui, il va puiser ce qu'il veut et c'est vous qui risquez d'être carencé. Mais c'est vrai que pendant la grossesse, c'est important de vraiment manger varié pour qu'il n'y ait pas de carence. Des fruits et des légumes et puis 3 fruits par jour. C'est pareil, parfois on a tendance à se dire que tiens, les fruits, c'est bien, ouais, mais pas trop non plus parce qu'il y a du sucre. Donc 3 fruits par jour, c'est parfait. Bon, activité physique. Alors évidemment, c'est peut-être pas le moment de faire du cheval ou du quad ou ce que vous voulez, on va être sur une activité physique douce.
On est le 19 juin, vous avez combien sur votre compte ?
Ah, sur mon compte, j'ai plus rien.
Et ça fait combien de jours que vous n'avez rien sur votre compte?
Ça fait déjà... en fait, dès que l'argent est arrivé, après avoir payé mes factures essentielles, voilà, j'ai plus rien.
Donc le 6 ou le 7, vous êtes en négatif?
Voilà, tout à fait, parce que en général, les factures tombent toutes à la même date, à la date de réception des prestations, et voilà.
Alors là, comment concrètement, comment vous faites?
Mais comment je fais? Mais je fonctionne dans le rouge, en fait. Je fais que le peu de monnaie que j'ai en main et avec ce que j'ai déjà chez moi.
Vous avez combien sur vous, là?
Là, pour à l'heure qu'il est, il me reste 15 euros pour finir le mois. Et débuter aussi jusqu'au 6 prochain.
Donc vous avez 15 euros pour faire une dizaine de jours.
Voilà, tout à fait.
$2 pistol, but the gun won't shoot. I'm in the corner on a pouring rain. 60 men in the dead man's chest, and I've been drinking from a broken cup. 2 pairs of pants and a more half-fist. I'm full of bourbon, I can't stand up. Hey little bird, fly away home. Your house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home. Your house is on fire, children.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Place de la République, 25e et dernier épisode. Un reportage de Pauline Mocor, Olivier Minot et Rémi Douat, réalisé par Philippe Baudouin. Merci au lycée, bien sûr à Madame Bellu, à Laurette, à tous les personnels, enseignants et dirigeants du lycée Fourier d'Auxerre, que nous remercions de manière générale pour toute cette année. Pareil à l'hôpital de Die, les deux Christine, Tine, Agnès, Nadine, Karine, Elodie, Jean-Pierre, Delphine, Brigitte, Marie, Marine Gély, Mesdames Dada, Lacoste et Nemos. Merci également au docteur Bonjean, au docteur Noël et bien sûr à Francine, à la CAF d'Amiens. Merci à Estelle Salé, à Karine Corme et à Mélodie. Merci également, puisque c'est la fin, c'est un peu long mais c'est important, à Pascal Pascariello qui a nourri cette série et à Cécile Lafont qui l'a si bien réalisé. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Liana Valken, c'est notre stagiaire.
I said, hey little bird, fly away home, your house is on fire, your children are alone. Hey little bird, fly away home, your house is on fire, your children are alone. Yellow sheets on a Hong Kong bed, stays evil horn in a single and ride to the carnival is what she said. $100 makes it dark inside. Edna Million in a drop dead suit, Dutch pink in a downtown train. $2 pistol but the gun won't shoot. I'm in the corner on a pouring rain. Hey little bird, fly away home. House is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home. House is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home, house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home, house is on fire.